voir, goûter, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ludovic Hubler, 30 ans, vient de passer 5 ans le pouce levé au bord des routes. C'était pour lui un rêve d'enfant. Je voulais mieux connaître le monde, explique ce globe-trotteur pétri d'humanisme. Symbole de ces jeunes de plus en plus nombreux à partir à la conquête du monde, Ludovic a publié un livre, Stop ou encore. Dans cette première émission, Ludovic nous raconte la préparation de son projet.
Bonjour, bonjour.
Alors Ludovic, ça fait déjà quelques temps finalement que je t'avais croisé, ça va faire 5 ans que je t'avais vu à l'occasion d'un défi jeune, un projet défi jeune que tu as créé en 2002. Est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter ton projet ?
Mon projet était au départ donc de réaliser mon rêve d'enfant. Quand j'avais déjà 8 ans, je regardais les cartes du monde à me dire un jour je ferai le tour du monde. Donc je suis parti pour faire ce tour du monde donc le 1er janvier 2003. Et donc uniquement en stop, le défi étant de faire... De boucler la grande boucle en utilisant le stop sous toutes ses formes, c'est-à-dire auto, bateau, dromadaire, âne, tout ce qui bouge. Et donc, voilà.
Une idée un petit peu folle, comment est née cette idée?
Une idée folle, oui et non. En fait, c'est parti d'un rêve d'enfant. Quand j'avais environ 8 ans, je regardais déjà les cartes du monde à me dire un jour je ferai le tour du monde. Donc je pense qu'il est important d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves. Il en va de notre épanouissement, je trouve. Donc ça, c'est la première chose. Pour donner un petit peu l'historique de l'autostop, quand j'avais environ 16 ans, ma maman, très protectrice, comme toutes les mamans, voulait toujours m'emmener à droite, à gauche. Mon père disait toujours, mais laisse-le se débrouiller, laisse-le faire du stop pour que je sois plus indépendant, débrouillard. Donc j'ai commencé sur les routes alsaciennes, entre Obernai et Krautergersheim, les routes bien alsaciennes, à lever mon pouce. Au début, je me sentais très mal, je me sentais penaud, mal à l'aise, regardé de toutes parts. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre goût à ce moyen de transport. Je me suis rendu compte que c'était, chose non négligeable, un moyen de se déplacer à frais réduits pour un étudiant. Chose non négligeable, mais aussi un moyen, surtout, de rencontrer toutes sortes de gens, des gens de milieux sociaux, culturels très différents. On passe 3 heures avec un ministre et 5 minutes plus tard, 3 heures avec le campagnard du coin, ou peu importe. Donc on rencontre toutes sortes de gens. Et j'ai commencé donc à faire du stop après dans toute la région, dans toute la France, et ensuite le tour d'Europe. Et durant ce tour d'Europe, il y a eu des moments d'échange, de rencontres très sympas. Et donc l'étape suivante, logique, était donc de faire le tour du monde.
Donc tu as monté un projet qui s'appelle Défi Jeune. J'aimerais qu'on en parle, que tu expliques un petit peu la démarche. Ça peut permettre à tous les jeunes aujourd'hui de porter leur projet, d'arriver à réaliser un de leurs rêves comme toi tu as pu le faire.
Défi Jeune est en fait un moyen qui permet aux jeunes d'aller au bout de leurs idées, au bout de leurs rêves. Et donc c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui donne un coup de main financier qui va généralement de 1500 à 4500 ou 5000 euros, je crois. Tout dépend de la qualité du projet, tout dépend des besoins. J'ai fait partie des candidats donc avant de partir en 2002. J'avais fait tout un dossier pour essayer d'avoir un petit coup de pouce du gouvernement de ce côté-là. Donc j'ai eu effectivement un petit coup de pouce, environ 2 000 euros, je crois bien. Alors bon, il y avait d'autres choses que faire simplement le voyage autour du monde. On en parlera un petit peu plus tard, je crois. Mais donc j'ai posé ma candidature à Défi Jeune, et donc qui m'avait reçu. J'ai fait la présentation de mon parcours, et donc j'ai été récompensé d'une somme d'argent.
Donc on va venir au jour du départ, donc le 1er janvier 2003, le grand jour, ça y est, c'est parti pour, à l'origine, tu pensais partir combien de temps?
Alors effectivement, départ le 1er janvier 2003, je suis parti des montagnes de Val d'Isère en fait, parce que mes amis passaient Nouvel An là-bas, mais je suis bien de Strasbourg. Je pensais au départ partir pendant 2 ans maximum, 1 à 2 ans maximum je disais. Après, bon, il y a eu diverses histoires, on en parlera tout à l'heure, qui ont fait que ce tour du monde n'a pas duré 1 à 2 ans, mais bien 5 ans.
Donc avant de partir, tu vas déjà un itinéraire bien défini. Tu savais par quoi tu allais commencer, tu avais déjà une carte avec toi.
J'avais un itinéraire prévu, effectivement, qui m'amenait, donc, qui partait d'Europe, descendant vers l'Afrique, ensuite en voilier stop, donc aller vers le Brésil, ensuite, donc en suivant d'est vers l'ouest. J'avais décidé de partir de l'est vers l'ouest pour la simple et bonne raison que faisant du bateau stop, il fallait que je m'adapte aux alizés, et les alizés donc, vont généralement, la plupart, de l'est vers l'ouest, donc les voiliers, les navigateurs, qui font des tours du monde le font généralement d'est en ouest. Donc il fallait que je m'adapte à ça pour augmenter mes chances, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible de faire un tour du monde en stop de l'autre côté, mais c'est beaucoup plus compliqué.
Tu utilises un mot sympa là, le voilier stop. Donc je connais bien l'autostop, mais le voilier stop, c'est possible ?
C'est possible, c'est possible. Dans mon tour du monde, en fait, j'ai eu au total 10 bateaux, dont 7 voiliers. Donc pour faire du voilier stop, faut simplement aller dans les marinas où il y a les bateaux les uns à côté des autres et aller se présenter. Bonjour monsieur le navigateur, bonjour monsieur le skipper. Je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais actuellement le tour du monde en stop et je souhaiterais travailler en tant qu'équipier sur votre voilier. Donc est-ce qu'il est chose jouable? Donc ça veut dire travailler en tant qu'équipier, ça veut dire simplement laver la vaisselle, peler les patates, tirer les drisses, etc. Donc il faut être bien entendu disponible. J'avais aucune, avant de chercher un bateau pour traverser l'Atlantique, j'avais aucune expérience de navigation, surtout pas à la voile, mais bon, c'est, comme on dit en anglais, learning by doing, on apprend au fur et à mesure. Donc le premier skipper qui m'a accepté sur son bateau m'a dit t'inquiète pas, on apprend sur le tas, et donc c'est ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai appris sur le tas, la mer m'a tout enseigné, les skippers m'ont enseigné beaucoup de choses aussi. Et donc voilà, donc le voilier stop. Alors il y a aussi donc le cargo stop, dans le sens, alors ça c'est beaucoup plus compliqué, parce que il y a environ 30 ans, le cargo stop, ce qu'on appelait le hand against bed, donc la main contre dans le coup de main contre le lit, c'était chose très commune, donc d'aller demander à travailler sur un cargo contre un trajet gratuit. Mais aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est beaucoup plus compliqué pour des raisons opérationnelles, des raisons d'assurance, des raisons de sécurité. Souvent, une journée de navigation pour un gros cargo coûte en général entre 10 et 50 000 dollars, et les affréteurs et armateurs n'ont souvent pas envie de prendre le risque d'avoir un bateau stoppeur, et donc qui pourrait, si le bateau stoppeur devait se casser une jambe ou quoi que ce soit sur le bateau, il devrait peut-être perdre une, deux, trois journées de navigation, et donc beaucoup d'argent derrière. Et donc aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué d'embarquer en tant que bateau stoppeur sur un cargo, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. J'ai finalement réussi à prendre un cargo entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais c'est pas évident avec les cargos, et souvent les capitaines des cargos ne peuvent pas prendre de décision. C'est l'armateur basé en Europe ou aux États-Unis qui est le seul capable de prendre une décision, et il y a beaucoup de bureaucratie, donc c'est pas toujours évident.
L'avion stop, ça existe ?
L'avion stop, ça existe. J'ai eu une petite expérience d'avion stop qui m'a fait aller de Dakar, en fait, jusqu'aux îles Canaries. Donc, aller voir les pilotes, tout simplement, les uns après les autres, et demander. J'aime pas trop prendre l'avion en général. Enfin, pour un voyage normal, oui, mais pour ce tour du monde, je voulais pas prendre l'avion parce que l'avion fait un peu perdre la notion des distances et pollue en plus davantage. Donc j'ai essayé d'éviter autant que possible l'avion stop. Je l'ai donc fait une fois, mais voilà. Donc je préférais le bateau stop. Il y a aussi eu, j'en ai pas parlé, le brise-glace stop pour aller en Antarctique, en fait. Bon, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure.
Vas-y, présente-nous un petit peu ton parcours. Donc, départ de la France de Val d'Isère, et on va peut-être voir, suivre un peu l'itinéraire, et puis raconter une anecdote par pays, si tu t'en souviens, si tu peux nous dire quelque chose.
Alors, on va suivre chronologiquement. Donc, départ le 1er janvier 2003 de France, de Val d'Isère. Donc, j'étais avec mes amis, tout simplement. J'avais dit au revoir à ma famille, grand moment émotionnel de dire au revoir à sa famille pour partir pour un tour du monde en stop, vous pouvez imaginer. Donc avec mes amis le 1er janvier 2003, départ vers l'Espagne, ensuite Maroc, Mauritanie, Sénégal. Donc j'ai traversé une partie du Sahara en stop. Alors il fallait que je trouve, le Sahara fait peur bien entendu, mais la partie occidentale du Sahara, il y a des petits villages tous les 500-600 km, donc j'essayais de trouver toujours une voiture ou un 4x4, ou peu importe, qui allait d'un village à l'autre. Donc ça n'a pas été le plus dur. Bon, bien entendu, ça demandait une certaine patience, mais ça, c'est pas là que ça a été le plus dur de mon tour du monde. Le plus dur, donc, c'est le bateau stop avant tout. Donc il a fallu que je descende jusqu'à Dakar. Et de Dakar, donc, il fallait que je trouve un voilier, donc, pour... pour traverser l'Atlantique. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires parce que je suis tombé en fait sur un couple d'abord qui m'a proposé de m'emmener jusqu'au Brésil. Mais ce couple, il s'est avéré qu'ils s'entendaient pas l'un avec l'autre et le bateau stopper que je suis a dû se transformer en psychologue médiateur avec la femme qui disait qu'elle voulait se jeter à l'eau carrément. Et puis l'homme qui était une boule de nerfs qui ne faisait que crier. Et donc la femme, elle en a eu marre. Un jour, elle a dit, bon, ça suffit, laisse-moi sur cette île, je rentre à la maison. Et l'homme a dit, bah, tu veux rentrer à la maison, tu te casses, tu rentres chez ta mère, je te laisse là sur l'île. Donc il l'a laissé. Et après, il s'est tourné vers moi, il m'a dit, désolé, je ne vais plus au Brésil, j'y allais pour elle, tu peux partir avec. Résultat, j'ai perdu 3 semaines avec cette histoire de ce couple un peu fou. Mais bon, ça m'a permis d'avoir mes premières expériences sur la mer, donc c'était intéressant.
C'est génial. Et donc, tu es resté sur cette île avec sa nana, tu t'es barré avec, tu as continué le voyage avec elle, et tu as fait quoi?
Non, bon, chacun est parti de son côté. Ouais. Elle avait une cinquantaine d'années. Et chacun est parti de son côté, donc il a fallu que je revienne au point de départ et retrouver un bateau, ce qui n'était pas évident, parce que si quelqu'un est intéressé d'ailleurs pour faire du bateau stop, je peux donner un petit conseil. L'important quand on fait du voilier stop, c'est les saisons. Les saisons sont très importantes. Par exemple, pour traverser l'Atlantique, le meilleur endroit pour trouver un bateau, c'est Las Palmas dans les Canaries. Le meilleur moment, c'est entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et 95% des voiliers qui partent pour traverser l'Atlantique vont partir entre le mois de septembre et le mois de décembre. Donc pour un bateau stopper, il est important de se trouver au bon moment, au bon endroit. Mmh. Moi, pas de bol, j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc bon, de Dakar, c'était pas impossible. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que j'aille vers les Canaries, mais j'étais au mois de mars, fin mars, début avril même, ce qui fait que c'était pas impossible de trouver, mais c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait très très peu de gens et beaucoup de gens me disaient, mais reviens au mois de septembre, tu trouveras au mois de septembre, mais pour l'instant c'est pas évident. Donc enfin bon, avec la persévérance on finit toujours par trouver. Et donc cette traversée de l'Atlantique a pris 16 jours finalement, donc en passant par le Cap Vert aussi, 16 jours avant de rejoindre le Brésil.
Finalement, le Brésil. Mais avant d'arriver à Dakar, on allait un petit peu vite sur ton trajet là. Donc faire du stop en Europe, c'est quelque chose que j'arrive relativement bien à imaginer. Mais une fois qu'on quitte l'Europe pour arriver sur le continent africain, est-ce qu'on fait du stop de la même manière ?
Alors, bon, il faut expliquer d'abord une première chose. La façon dont je fais du stop, j'évite autant que possible d'être le pouce tendu au bord des routes. En général, quand je fais du stop, je vais dans les stations-service. Donc dans les stations-service, c'est pas les gens qui me choisissent, c'est moi qui choisis les gens. Et je peux leur parler directement, je peux avoir un contact. Alors j'ai souvent avec moi une carte du monde plastifiée, j'ai aussi un document avec des photos, etc., qui donne de la crédibilité, qui me permet d'expliquer directement aux conducteurs qui sont en train de faire leur plein d'essence. Je vais les voir. Bonjour monsieur, je m'appelle Ludovic, je suis... je fais le tour du monde en stop. J'essaye en général d'être bien, d'être présentable, d'être rasé, d'être habillé correctement. Et donc j'y vais donc avec le sourire. Est-ce que par hasard vous allez dans la direction de Dakar? Est-ce que vous allez dans la direction de Marrakech, etc.? Alors souvent on me regarde haut en bas. Oui, pourquoi pas? Oui, j'y vais. Oui. Est-ce qu'il est possible de me déposer un petit peu plus loin dans une autre station-service sur la route? Et en général, ça marche plutôt bien. En général, ça marche plutôt bien. Alors l'Afrique, effectivement, c'est un choc culturel quand on arrive en Afrique, bien entendu. Quand on arrive de l'Espagne en Afrique, il n'y a qu'une demi-heure pour passer le détroit de Gibraltar, mais c'est un autre monde de l'autre côté. Alors au début, bah, j'avais un petit peu peur, bien entendu, mais on se rend compte rapidement que les Marocains et les Africains sont des gens généralement adorables et ça marche très bien. Alors il y en a qui demandent une participation aux frais. Alors moi je m'étais fixé, mon défi était quelque part de faire le tour du monde en ne payant rien de transport. Alors j'avais un cas de conscience quelque part à me dire qu'est-ce que je dois faire. Après je me suis dit, bon, je vais couper la poire en deux, quelque part je participais au repas, etc. J'offrais régulièrement des repas, mais je voulais pas avoir un échange d'argent. Donc c'était avec le défi. J'expliquais le défi, mais j'essayais autant que possible de sortir de chaque voiture avec une relation gagnant-gagnant, dans le sens où que les deux soient heureux à la fin. Donc je prenais toujours le temps de bien partager le parcours et de faire en sorte que les conducteurs fassent partie de mon aventure quelque part, qu'ils aient l'impression de faire un bout de mon tour du monde. Et généralement, ça se passait bien.
Donc, tu parlais de différences culturelles, il y a aussi la différence de la langue. Comment est-ce que tu gérais cette différence de langue? J'imagine que tu ne peux pas toujours expliquer ta démarche dans la langue native du pays dans lequel tu te trouves.
Alors, le problème de la langue, c'est produit beaucoup plus tard, à vrai dire. Parce que l'Afrique, j'ai fait Maroc, Mauritanie, Sénégal, beaucoup de gens parlent français, donc ça ne posait pas trop de problèmes. Ensuite est arrivée l'Amérique du Sud, étant donné que je parle espagnol et portugais, ça ne posait pas non plus beaucoup de problèmes. Les États-Unis non plus, sachant que c'était anglais. Donc enfin, le vrai problème de la langue s'est posé en Asie. On reviendra sur l'Asie plus tard, mais pour l'instant, au niveau de la langue. Alors je m'étais fait ce que j'appelais un document magique, c'est-à-dire un document où je demandais à une personne locale, parlant et l'anglais et la langue locale, si elle pouvait me traduire un texte. Alors sur ce texte, c'était écrit « Bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 29 ans. Je fais actuellement, depuis le 1er janvier 2003, je fais le tour du monde en stop. Je souhaite aller dans la direction de Shanghai ou Beijing ou n'importe. Est-ce que par hasard vous allez dans cette direction? Si oui, est-il possible de me déposer un peu plus loin dans une station-service? Merci beaucoup, désolé, je ne parle pas chinois. Bonne journée. » Donc je montrais ça dans les stations-service, puis je montrais mes photos, etc. Et les gens en général disaient « Oh oui, pas de problème, allez, vas-y, monte. » Et puis on faisait un petit bout de chemin ensemble. Et dans la voiture, j'essayais autant que possible, malgré la barrière de la langue, j'essayais quand même de partager mon parcours, donc via les photos que je montrais, j'avais des articles de presse dans la langue locale qui permettaient aussi au conducteur de comprendre davantage. Et puis après, il y a le langue des mimes, il y a le langage du sourire, tout simplement, le langage du cœur qui est universel.
In the KGB, so no funny business. You already are.
Ludovic, donc on a vu avec toi départ des Alpes du Sud, c'était le 1er janvier 2003, partir vers le Maroc, la Mauritanie, arriver au Sénégal, on est à Dakar et là tu as cherché un voilier stop pour pouvoir traverser l'Atlantique et te diriger vers le Brésil. On arrive au Brésil et après?
Alors le Brésil est un pays particulier pour moi, sachant que j'avais pas beaucoup voyagé avant ce tour du monde, mais j'avais voyagé au Brésil étant donné que mon frère, qui a 10 ans de plus que moi, est marié avec une Brésilienne, donc j'avais eu la chance d'aller pour le mariage notamment de mon frère. Et le Brésil m'avait déjà laissé un sentiment extraordinaire, m'avait laissé le sentiment d'un pays joyeux, d'un pays plein de vie, d'un pays où les femmes sont belles, où il fait beau, un pays où les tempéraments sont agréables. Et donc, c'était avec un grand bonheur, un immense bonheur que je suis arrivé au Brésil, et notamment à Rio de Janeiro, qui est pour moi l'une des plus belles villes du monde, et une ville qui est recouverte pour le tiers de nature, avec des superbes pains de sucre à travers la ville, également une luminosité formidable, des plages superbes, un grand Corcovado, un grand Christ qui bénit la ville, enfin une ville formidable. Et j'étais logé à cet endroit donc pour la première fois depuis 5 mois, parce que j'étais arrivé en mi-2003, on était à ce moment-là mi-2003 au Brésil, et donc ça c'était un grand moment le Brésil. Il y a un mot en brésilien, en portugais, qui s'appelle la saudade. Saudade, c'est un mot qui est très usité au Brésil, qui est certainement le plus beau de la langue portugaise, qui est une sorte de mélange entre la nostalgie, la mélancolie, le rappel des bons souvenirs, et c'est le mot que les Brésiliens utilisent le plus. Dans chacun des emails, ils terminent en général leur email par ce mot, saudade, ou alors même en objet des emails, c'est souvent saudade. Ça veut dire je me souviens du bon temps qu'on a passé ensemble, et c'est effectivement le sentiment qui m'est resté en partant du Brésil. J'ai finalement passé 5 mois au Brésil, et c'est le sentiment qui m'est resté, ce sentiment de saudade.
Tu nous expliquais plus tôt dans l'émission que tu préférais choisir tes voitures, donc ta démarche était assez simple, hein, aller dans les stations essence et demander gentiment au conducteur si c'était possible de déposer un petit peu plus loin sur ton itinéraire. Tu favorisais cette démarche plutôt que de te retrouver pouce levé sur les routes. Donc on a vu un peu comment tu te déplaçais, mais comment est-ce que tu te logeais le soir ?
Alors oui, donc j'allais souvent dans les stations-service. Et ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas au bord de la route de temps en temps. Je le faisais quand même régulièrement, mais j'essayais autant que possible d'aller dans les stations. Pour le logement, en fait, dans la première partie de mon voyage, c'était vraiment... Bon, je logeais souvent chez les locaux, des gens qui me prenaient en stop, qui m'amenaient chez eux, ou dans les camions, ou à l'extérieur, ou dans ma tente. J'avais une tente jusqu'à Rio. D'ailleurs, je l'ai laissée à Rio, ma tente. Je me suis rendu compte qu'après... Je pouvais loger un peu partout. Il m'est arrivé de rester dans des cellules de prison, dans ça m'est arrivé une fois d'ailleurs d'aller voir des policiers qui avaient une petite prison, et je leur ai demandé si je pouvais loger. Ils m'ont dit ok, vas-y, viens. Des casernes de pompiers de temps en temps, des choses comme ça. Donc je dormais un peu partout, mais régulièrement, souvent chez les locaux quand même. Et d'ailleurs, il était important pour moi d'aller régulièrement chez les locaux aussi pour on peut pas dormir, on peut pas tenir un voyager très longtemps en dormant toujours à l'extérieur, c'est pas possible. Donc enfin c'est pas possible, le truc c'est qu'on en profite plus vraiment après. Si on est vraiment toujours fatigué, toujours très sale, etc., on profite plus vraiment de ce qu'apporte le voyage. Donc moi j'avais quand même besoin d'être en forme. Alors il m'est arrivé de temps en temps, ça faisait pas partie de mon défi de ne pas rester à l'hôtel, mais il m'est arrivé de temps en temps d'aller dans des hôtels à moins de 5 $, les petits hôtels donc qui sont généralement sales, mais bon, je me suis jamais plaint de l'insalubrité, sachant quand on paye ce prix-là, c'est normal. Et donc il m'est arrivé de temps en temps quand j'étais fatigué, mais très rarement. Sur mon tour du monde de 5 ans au total, j'ai dû rester une vingtaine ou une trentaine de fois dans ces hôtels, pas plus. Donc voilà, mais c'était souvent donc chez les locaux. Et on se rend compte en voyageant autour du monde que l'hospitalité, en fait, que la France est certainement un des pays offrant le moins l'hospitalité au monde. L'hospitalité est une valeur universelle, une valeur notamment dans des pays où je m'y attendais absolument pas. On reviendra sur ces pays un peu plus tard, mais l'Iran, le Pakistan, c'est des pays où je m'attendais pas du tout à une hospitalité comme ça, mais c'est dans ces pays que j'ai reçu la meilleure hospitalité au monde. Mais l'Inde et beaucoup d'autres pays m'ont vraiment agréablement surpris au niveau de l'hospitalité. Après, il y a deux sites internet qui m'ont énormément aidé. Alors, je vais en parler de ces deux sites parce qu'ils sont assez révolutionnaires dans le monde du voyage. Il y en a un qui s'appelle couchsurfing.com, coach, C-O-U-C-H, surfing.com, et l'autre, c'est hospitalityclub.org. Ces deux sites sont assez révolutionnaires dans le sens où il y a aujourd'hui 1 million de membres à travers le monde qui offrent un endroit où loger. Donc c'est des gens qui ont une chambre en plus chez eux ou qui ont un canapé de libre et qui sont heureux d'avoir un voyageur restant chez eux gratuitement. L'idée c'est que l'un offre un lit, l'autre offre quelques histoires en gros. Donc c'est un moyen de rendre le voyage moins cher, donc plus abordable, mais en même temps d'avoir plus de relations avec les locaux. Donc ça permet un dialogue interculturel intéressant Et c'est quelque part une des bases de la paix dans le monde aussi, d'avoir ce dialogue et mieux se connaître les uns les autres. Et donc moi, ça m'a non seulement aidé au niveau du logement, mais ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau des organisations de conférences, etc. Enfin, on en parlera plus tard, mais beaucoup de gens m'ont organisé des conférences dans des écoles, universités, etc.
Mais c'est quelque chose qui se prépare, on va pas dormir chez les gens comme ça, faut les prévenir un petit peu à l'avance, et j'imagine que tu n'as pas toujours accès à une connexion internet sur ton parcours.
Alors internet a fait intégralement partie de mon tour du monde, et il a été très très important dans mon tour du monde. Mon tour du monde n'aurait pas été le même sans internet, ça il faut que... Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, que ce soit pour garder contact avec mes proches, que ce soit pour avoir des nouvelles de la France, du monde, etc. Donc, il y a aujourd'hui des cybercafés un peu partout, même dans les endroits les plus reculés, j'ai trouvé un petit cybercafé dans un petit village du Sahara occidental. C'est-à-dire qu'on en trouve aujourd'hui un peu partout. Alors, ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Organiser était important. Donc, je passais en général quand même, malgré le voyage tout le temps, je passais quand même 2 heures, 3 heures sur internet tous les jours, sachant que j'avais aussi tout mon projet pédagogique avec les enfants malades de cancer, on en parlera aussi un peu plus tard. Mais donc j'avais régulièrement besoin d'internet et effectivement, quand j'utilisais Couchsurfing ou Hospitality Club, il fallait préparer, envoyer des emails avant. Mais Couchsurfing et Hospitality Club sont apparus pendant mon tour du monde, parce qu'au début de mon tour du monde, ça n'existait quasiment pas, et j'ai fait partie des premiers membres. Donc voilà, mais ça m'a aidé notamment beaucoup en Asie, beaucoup aux États-Unis, en Australie aussi, où bien entendu, là, je ne voulais pas aller à l'hôtel, c'est beaucoup plus cher. Donc j'ai logé très très souvent aux États-Unis et en Australie, notamment chez des locaux comme ça.
Dans le voyage, ce que j'aime bien, c'est la liberté qu'on peut ressentir, la liberté de suivre le vent, là où nous porte le vent. Mais quand tu voyages comme ça, est-ce que toi tu es dans une dynamique où chaque jour tu vas te déplacer, ou est-ce que tu t'offres la possibilité de rester dans une famille qui va te plaire, qui va bien t'accueillir?
La flexibilité a véritablement été la base de mon tour du monde. Alors moi, il est important pour moi quand même de savoir où je vais, dans le sens... Il y a beaucoup de voyageurs que je rencontrais qui je leur disais « Alors tu vas où demain ?» Oh, je sais pas, vers où le vent l'emmène. Donc, ils n'avaient pas de vrais itinéraires, etc. Moi, j'avais quand même ma ligne rouge, quelque part, mon fil rouge, je veux dire. Donc, un fil conducteur, mais au sein de ce fil conducteur, donc je savais où j'allais, je savais que l'objectif était quand même terminer mon tour du monde, et j'avais un itinéraire prédéfini, même si je l'ai changé beaucoup. Alors après, donc comme je dis, il a fallu être très flexible dans ce tour du monde. Je l'ai été au niveau du trajet. Donc il y a régulièrement des fois où je pensais pas, où j'apprenais des nouvelles choses, des choses intéressantes à voir ici ou là, et j'y allais. Après, donc la flexibilité aussi, j'étais parti pour 1 à 2 ans, et mon tour du monde a finalement duré 5 ans. Donc la flexibilité était vraiment là, mais j'avais donc, malgré cette flexibilité, j'avais quand même un fil conducteur. Et la liberté, je l'ai ressenti, bien entendu. Donc, même s'il y avait ce fil conducteur, la liberté, je me la gardais. Et il n'y a rien de plus important, effectivement, pour un voyageur, d'avoir cette liberté.
Ludovic, je suis heureux de pouvoir partager avec toi tous ces moments. Et merci d'ailleurs de partager avec nous. Je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour nous parler de la suite de ton voyage et du projet que tu portais durant ce voyage. Parce qu'il était aussi question de garder contact avec la France et notamment, je crois, un projet avec un hôpital.
Oui, effectivement. Donc, je faisais un projet pédagogique, mais on en parlera la prochaine fois. Voilà, donc c'est avec les enfants de cancer, victimes de cancer de l'hôpital de Strasbourg.
Merci Ludovic.
Au revoir.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.